France Culture.
Bonjour.
Bonjour Edith. Oh. C'est Sylvie. Tiens, je t'ai amené de la verveine.
Oh.
Du jardin.
Ça sent bon. Je te donne un café. Ah, tu travailles pour France Culture, alors c'est bien. Je suis très impressionnée par les micros, là. On se connaît depuis longtemps, oui. J'ai l'impression. J'ai été présidente. Oh là là. Oh là là, la mémoire et moi, ça fait deux. C'est terrible.
Moi, la mémoire et moi, ça fait une.
Ta boîte est pleine. Ça te dérange pas que je fume?
Non. Edith, tu perds la mémoire. Et pourtant, tu as travaillé ta mémoire toute ta vie. Tu as assisté jusqu'à 250 pièces de théâtre par an. Tu as connu et soutenu nombre de compagnies et d'artistes.
Et puis je vais chez toi. Qu'est-ce qui a écrit ça?
Ça? Mais c'est toi.
C'est moi. Tu vois. Oh, la mémoire et moi, ça fait deux.
Bah regarde, j'aime le théâtre.
Surtout en espace public. Je suis une grande amoureuse des vraies compagnies. J'ai fondé le Théâtre de l'Unité avec Jacques Lichine, mon homme, qui m'a donné deux enfants, Dana et Christophe Rapoport.
Ah, il n'y a que toi qui peux écrire ça.
Donc, toi, t'écris. C'est bien. Moi, j'ai longtemps écrit, mais je n'écris plus.
Et tu écrivais à la main?
Non, je tapais sur un ordinateur.
Tout de suite?
Oui.
Ah ouais?
Assez tôt.
Mais tu as eu des correspondances aussi, non?
Si, avec Nicolas Roméas, pour Cassandre. Il était important pour moi. Tu l'as connu?
Oui.
Bon, tu travailles sur France Culture, c'est bien?
Oui, c'est bien.
C'est quand même...
Et toi, tu as dirigé plusieurs théâtres?
Le théâtre de Choisy-le-Roi. Et le théâtre de 71 de Malaco. Toi, t'as de la mémoire. Moi, je la perds complètement, c'est affreux.
Mais t'oublies jamais que t'oublies.
Non. Non, non. Pioche vache étoile.
Qui sait ce que c'est, pioche vache étoile? C'est un test?
Oui.
Pour savoir si on perd la mémoire ou pas.
Oh ben ça, je le perds. La boîte est pleine.
Tu crois que c'est ça? C'est que la boîte est pleine?
Sans doute. J'aime pas. J'aime pas oublier. La chair est triste, hélas, j'ai lu tous les livres. Fuir là-bas, fuir. Je sens que les oiseaux sont ivres. D'être parmi l'écume inconnue et les cieux. Eh ben, t'as un beau micro, hein. Et t'écris pour qui, alors? Pour toi?
Pour moi, et puis là, je vais avec toi, on va faire une émission sur France Culture.
Ah, tu veux faire une émission sur France Culture?
Oui, et c'est une émission sur toi et Jacques.
Ah bon?
Et ça s'appelle...
Pioche vache étoile.
Voilà. Vas-y, Jacques.
Bah, tout commence un jour par, mais je viens de te le dire. Mais non, tu ne me l'as pas dit. Si, je viens de te le dire. D'accord. Ouais, deuxième cap. Mais je comprends pas. Le sac des courses, c'est toi qui l'avais. Je comprends pas où tu l'as mis. J'ai plus d'idée. Tu l'avais dans les mains. Je comprends pas où il est parti. Voilà. C'est pas très très grave. Et puis après, t'as des salves de répétition. Toujours la même phrase qui revient. Il est beau ce chat, il est noir et blanc. Ah, il est beau ce chat, il est noir et blanc. Il est beau ce chat, il est noir et blanc. Il est beau ce chat, il est noir et blanc. De temps en temps, je prends le parti de jouer moi-même le jeu, de dire « Il est beau ce chat, il est noir et blanc. Il est beau ce chat, il est noir et blanc. » Et elle me dit « Mais tu viens de me le dire. » Je renverse le jeu. Bon, c'est pas ça. Et puis, ça augmente un peu tout de même. Alors, donc, on fait faire un petit examen. Et là, le mot tombe. Il est terrible, ce mot, parce que... Tu sais, c'est comme dans le temps, quand ils disaient « cancer », ça veut dire « mort hein. ». Alzheimer, ça veut dire « pas guérissable ». Pas de guérison possible, pas de progrès possible. Voilà, c'est un mot affligeant qu'on devrait enlever de la langue française. Parce qu'on pourrait dire petite perte de mémoire, petit fléchissement de la pensée, tout ça. Mais Alzheimer, c'est couperet.
Dans ma famille, dans mes amis, je n'ai jamais été confrontée à la maladie d'Alzheimer. J'ai même encore besoin du dictionnaire pour bien l'orthographier. La mémoire, c'est toute ma vie. Je dors sur des bandes magnétiques. Longtemps, j'ai su que j'en avais fini avec le montage d'une émission lorsque je le connaissais par cœur. Je n'oublie pas les voix enregistrées.
T'as des belles tresses. Non, moi, c'est marrant parce que moi, mes cheveux, ils poussent pas.
Mais ils sont là pourtant, toujours.
Il y a... Quand je suis née, ma mère a dit « Merde, c'est encore une fille ». Après, elle a eu mon frère, qui était le préféré.
Tu te souviens physiquement à quoi elle ressemblait ?
Oui, elle avait un grand nez. Non, elle était très... C'était une bonne mère. Très attentive. Et trois enfants, hein. Claude, Edith et Olivier.
Voilà.
Je suis celle du milieu.
La fratrie.
Bon, donc t'écris. C'est bien. Continue à écrire. Ah, il y a quelqu'un.
Il y a quelqu'un ?
Mon fils préféré.
La carte. Rester un peu.
Bien sûr. Claude, il était beaucoup plus âgé que toi ou pas ?
Elle avait 4 ans.
4 ans ?
C'est une femme.
C'est Claude ?
Il s'appelait Claude Geneviève Michel. C'était son... Claudie, c'était son surnom.
Ah, d'accord, toi, je savais même pas. J'apprends des trucs.
Et elle était danseuse ?
Ben, elle voulait faire de la danse. Et puis, elle s'est pété le tendon d'Achille et après, elle ne pouvait plus.
Ah ouais ?
Elle a fini par se suicider.
De ne pas pouvoir danser ?
Oui.
Wow. Et Olivier, lui, qu'est-ce qu'il a fait ?
Olivier, qu'est-ce qu'il a fait ?
C'est ton frère, Olivier.
Oui, c'est mon frère. Qu'est-ce qu'il faisait ? Je ne sais plus.
C'est plus ? C'est te souvenir. Il faisait un peu comme ton père. Ton père, il faisait quoi ?
Il était médecin.
Voilà. Et ton frère ?
Il a été médecin aussi ?
Ouais. Mais médecin, qu'est-ce qu'il faisait ? Il endormait les gens.
Était hypnotiseur.
Non.
Anesthésiste.
Anesthésiste. Tu te souviens maintenant ? Il était anesthésiste. Hein ? Tu te souviens plus ? T'as quel âge déjà ?
Je suis né en 44, donc 66 et 22, 88.
Non, raté.
Non.
Raté. Pas loin. Tu vas sur tes 80.
Oui.
Le jour, c'est Christophe qui m'a dit, elle a... Parce que j'y allais pas au début chez le professeur, là, Taillet, il me dit, c'est Alzheimer. Pouh, la vache, ça, c'est dur. Ça, c'est... Ça arrive durement, voilà. Mais, peu à peu, moi, je suis jour et nuit avec elle, donc je m'y connais mieux que tout le monde en Alzheimer. Je suis spécialiste... je suis spécialiste international de l'Alzheimer. Je vais inventer des soins à moi, voilà, et je deviens son prescript, son docteur un peu. Le problème, c'est l'automne pour moi.
Pourquoi ?
Parce qu'il y a plein de feuilles par terre, il y a plein de feuilles mortes.
Oui. Feuille morsomme, hasta la pelle. Tu vois, je n'ai pas oublié. Les feuilles morsomme, hasta la pelle. La chanson que tu me chantais. C'est une chanson qui nous ressemble. Moi qui t'aimais, toi qui m'aimais. Mais la vie sépare ceux qui s'aiment tout doucement, sans faire de bruit. Et la neige efface sur le sable les pas des amants réunis.
L'automne pour moi, c'est la saison de la souffrance. Voilà ce que je dois dire, hein. J'en peux plus.
Oh, je ne devrais pas chanter.
Si, si, c'est très bien, mais tous les jours, dès que tu vois une feuille morte, dès que tu vois une feuille morte, ça recommence.
Oh, je ne vais pas recommencer à chanter.
Incroyable, elle en a un paquet de chansons. Hein. Voilà.
Ça veut dire que tu en as... J'ai encore un peu de mémoire.
Oui, et puis que tu en as écouté des chansons, que tu en as apprises. C'est ça aussi. Parce que ta vie, elle a été...
J'étais dans une chorale, à un moment. La Trappe-cœur, ça s'appelait.
Alors, est-ce que tu pourrais, Edith, sentir ce mouchoir ?
Oui. Ça sent très bon. C'est une odeur de fleurs. De roses.
Et me dire si ça évoque quelque chose pour toi, si tu te souviens de quelque chose.
Plutôt le jardin de mes parents, à Nesle-la-Vallée, dans le Val d'Oise. Un grand jardin. Mon père était médecin de campagne. Il recevait les gens. Beaucoup, il allait chez eux. Il refusait jamais aucune visite, aussi dure soit-elle. C'était pas un rigolo. Il se mettait en colère facilement. Mais ma mère était très gentille. Je préférais ma mère, d'ailleurs. C'est des souvenirs très lointains, tout ça.
C'est la rose.
Un gros micro.
Ça a beaucoup de qualité, Alzheimer. Ça permet de voir la fin de vie de manière très positive. Par exemple... Il y a un effacement progressif des êtres qui t'entourent, c'est-à-dire les morts. Tu sais plus s'ils sont morts ou vivants, mais ils restent beaucoup, très vivants. Hein. Ah bon ? Ah, ma copine est... Bon, je sais. Oui, elle est morte ? Non. Si, elle est morte ? Non. J'en sais rien. À vrai dire, j'en sais rien. Voilà. Donc tu sais plus. Tu sais plus s'il y a des morts et des vivants. Ensuite, il y a des notions de temps qui sont très impressionnantes, que j'aime beaucoup. C'est avec Edith, on peut arriver quelque part sans être parti. Alors là, c'est complètement prodigieux.
C'est un avantage.
Oui, c'est la physique quantique. On partait en avion assez loin, en Éthiopie, et on est à l'aire d'embarquement pour partir à Addis Abeba. Et elle me dit, j'ai une question un peu idiote à te poser. Là, on s'en va ou on est revenu ? Oh, alors là, ça m'a beaucoup plu cette idée qu'on pouvait partir et revenir en une seconde. Voilà, ça c'était bien. Finalement, c'est vrai que l'enregistrement des bagages et retrouver ses bagages, c'est à peu près le même mouvement. Ça c'était bien. Après, peu à peu, tu as elle est dézonée géographiquement, mais ça c'est très agréable. Par exemple, il n'y a pas longtemps, on est à Boulogne-Billancourt, on attend un bus. Elle me dit, c'est bien le bus pour Montbéliard, comprends ? Oui, oui, le 323, oui, il va à Montbéliard, je réponds. Bah, ça la fait rire, mais... Ou Addis Abeba, elle dit, on va à la gare pour prendre le train pour Paris. Voilà, ça donne du décalage dans la vie, un peu de poésie, que j'apprécie beaucoup.
Et tu te souviens des premiers mots que t'as dit, Jacques ?
Non. Non, mais j'ai ne tout de suite plus.
Je crois que ça s'est passé le 25 mars 1965, oui. J'avais eu un problème sentimental et ma sœur me dit « Oh Jacques, j'ai une copine de classe et on va t'emmener toutes les deux à Amsterdam. » Ça te dit quelque chose ça, non ?
Oui, tout à fait.
Et donc on part à Amsterdam en deux chevaux. Hein ?
Oui.
Moi, je...
De chevaux théâtre.
Je te connais pas, t'étais... C'est pas une de chevaux théâtre, une de chevaux.
Pas encore, oui.
Bon, voilà, on roule, et puis on est revenu la nuit, on se souvient pas le matin. Et moi, pour me tenir éveillé en voiture, toi, tu étais à côté de moi, je récitais les poèmes que j'avais à cet âge-là. Et donc, j'étais à côté de toi, et t'écoutais... Je disais, en ce temps-là, j'étais dans mon adolescence, j'avais à peine 16 ans, et je ne me souvenais déjà plus de mon enfance. J'étais à 16 000 lieues du lieu de ma naissance. J'étais à Moscou, dans la ville des Sept Gares et des 1003 Tours, et je n'avais pas assez des Sept Gares et des 1003 Clochers, car mon adolescence était alors si ardente et si folle que mon cœur tour à tour brûlait comme le temple d'Éphèse ou comme à la place rouge de Moscou quand le soleil se couche. Et mes yeux éclairaient des voix anciennes. Et j'étais déjà si mauvais poète que je ne savais pas aller jusqu'au bout. Le Kremlin était comme un immense gâteau tartare, croustillé d'or, avec les grandes amandes des cathédrales toutes blanches et l'or mielleux des cloches. Un vieux moine me lisait la légende de Novgorod. J'avais soif et je déchiffrais des caractères cunéiformes. Puis tout à coup, les pigeons du Saint-Esprit s'envolaient sur la place, et mes mains s'envolaient aussi, avec des bruissements d'albatros. Et ceci, c'était les dernières réminiscences du dernier jour, du tout dernier voyage, et de la mer. Pourtant, j'étais fort mauvais poète. Je ne savais pas aller jusqu'au bout, j'avais faim. Et tous les jours, et toutes les femmes dans les cafés, tous les verres, je voulais les boire, les casser, toutes les rues, toutes les maisons, et toutes les vies, et tous les roues, les fiacres qui tournent en tourbillon sur les mauvais pavés. J'aurais voulu les plonger dans une fournaise de glaive. J'aurais voulu broyer tous les os, arracher toutes les langues, et les keffiers, ces corps étranges et nus, sous leurs vêtements qui m'affolent. Je pressentais la venue du grand Christ rouge de la révolution russe, et le soleil était une vilaine plaie qui s'ouvrait comme un brasier. En ce temps-là, j'étais dans mon adolescence, j'avais à peine 16 ans, et je ne me souvenais déjà plus de ma naissance. J'étais à Moscou, où je voulais me nourrir de flammes, et je n'avais pas assez des tours et des gares que constellaient mes yeux. En Sibérie, dans le canon, c'était la guerre, la faim, le froid, la peste, le choléra, et les eaux lumineuses de l'amour charriaient des millions de charognes. Dans toutes les gares, je voyais partir tous les derniers trains. Personne ne pouvait plus partir, car on ne délivrait plus de billets. Les soldats qui s'en allaient auraient bien voulu rester. Un vieux moine me chantait la légende de Novgorod. Fsiodou begou daragi, fsiodou begou daragi, paliesou papoustigné, vrani pouznitsas. Люди по ним родят, люди по ним родят, родят по ним другие, и в ранний поздний час. Et donc on roulait, et peu à peu je te voyais, tu commençais à être légèrement séduite, non? Non?
Oui.
Par ce garçon qui...
Absolument.
Qui récitait.
Moi, ce que je voulais savoir, Jacques, c'est comment tu procèdes pour apprendre par cœur?
Tu ressasses et ressasses, moi je le fais en marchant. Je ne vais pas assis dans un fauteuil. C'est en promenant le chien. Et quand tu arrives à associer un texte avec un paysage, un texte avec une maison dans laquelle tu passes, ça revient beaucoup mieux. Ouais. Donc il y a même des moments où je dis encore des trucs et je vois le paysage dans lequel je l'ai appris.
Mais... Tu les cites régulièrement. Ben, c'est bien de ne pas perdre la mémoire.
Oui, je ne sais pas si c'est la mémoire, c'est le par cœur, je ne sais pas.
Je ne sais pas non plus si c'est la mémoire, le par cœur. Parce que pendant que tu le dis, tu réfléchis pas.
C'est comme si tu explorais une maison et tous les petits coins, toutes les fissures, tout ce qu'il y a, le parquet, tout, c'est pareil. Peu à peu, tu possèdes tous les petits aspects du texte que aucun spécialiste de littérature ne peut posséder comme un comédien, voilà. Parce que nous, on dit le texte, c'est pas pareil. J'ai toujours dit tout Rimbaud en marchant. Et Rimbaud marchait effectivement énormément.
Un soldat rentre chez lui, a marché, a beaucoup marché. 15 jours qu'il chemine déjà, marche depuis longtemps déjà.
Et donc, peu à peu, j'ai vu que le verbe pouvait être un outil de séduction beaucoup plus virulent qu'un joli visage, qu'une belle gueule, qu'une belle frimousse, que des biceps. Non, t'aimais bien les biceps tout de même. Non ?
Non.
Tu préférais quoi ?
On foutait les biceps. Les poètes.
Ah, tu préférais le verbe ?
Le verbe.
Voilà, et t'es très vite tombée amoureuse, on n'a qu'à dire ça, non ?
Ouais.
Puisque le lendemain du retour, tu m'as amené plein de livres que t'aimais. Et là, c'est le... Quand on offre des livres à quelqu'un, c'est le degré numéro 4 de l'amour. Hein. C'est l'amour. Tu sais, moi, je fais l'amour, j'ai 14 paliers d'amour. Mais le premier palier, c'est rien. C'est, on se regarde, c'est rien. Deuxième, on marche ensemble, on parle, on échange. Troisième palier, notamment. Oh, c'est joli, ce petit bague. Et t'en profites pour toucher un tout petit peu. Hein. Quatrième palier, c'est le livre. On s'offre un livre. Enfin, un échange intellectuel, quoi. Voilà. On regarde s'il y a des affinités. Après, il y a le palier où je t'emmène au théâtre. Hein. Tu te souviens de ça ? Je t'emmène au théâtre, etc. Et puis, on arrive au septième palier où tu dis... on se quitte tout de suite ou on va boire un verre ?
On est allé boire un verre.
Oui. Le huitième palier, c'est t'as dit, je vais te montrer la maison de mon enfance. Et on est parti en deux chevaux à...
Nel-la-Vallée.
Et tu m'as emmené sur une colline.
Oui.
Et puis là, carrément, tu t'es pas gêné, là, hein ? Hein, quand on est arrivé ?
C'est moi qui ai pris l'initiative.
Ouais, bah oui. Oh, bah moi, j'étais carrément un jeune garçon par rapport à toi.
Moi, je suis pas plus vieille que toi.
Non, mais t'avais une grosse expérience, tout de même. Ouf. On n'aurait pas cru qu'on se retrouverait 65 ans plus tard. Hein. Attends, calcule 65.
Pas 65 ans plus tard.
Ben, calcule. 65. Pour aller jusqu'en 2000, il faut combien d'années ?
Il faut 35.
Bien, 35 plus...
20.
35 et 20. 55 plus 4.
Oui.
59 ans plus tard. On est sur un canapé, je te raconte cette histoire. 59 ans plus tard.
Eh ben dis donc. Hein. On ne doutait pas que ça allait durer drôle, aussi longtemps. Oh non.
Tiens, écoute Edith.
Ça résonne.
Tu m'entends ?
Ouais.
Je fais le tri dans mes souvenirs. Me force à ne garder que des bons. Je me trouve pesante avec toute cette mémoire. Le présent me laisse une impression de déjà-vu. Je manifeste dans des rues remplies de fantômes. Je fusionne des visages anciens sur de nouveaux, dans une morphologie du souvenir. Interlude. Extérieur jour, boulevard Casanova, un balayeur sifflote.
Garde au berceau que l'âme des femmes balance. Mais viendra le jour des adieux, car il faut que les femmes pleurent. Et que les hommes querellent tous les horizons qui l'heurent.
Magnifique.
Oui.
J'étais impressionné. Trouver ça dans la rue.
Ah oui, c'est les airs, c'est l'air.
Vous avez une carrière à faire.
Oui.
Sur les plateaux.
Scène 1.
Moi, j'ai appelé Pierre Samuel tout à l'heure. Du Toligol, sinon on serait... Hein? Tu personnel, tu le connais ou non?
Oui, je le connais.
T'es sûr que tu le connais?
Oui.
Attends, une seconde. Il habite là, normalement. Viens voir. On va aller voir s'il est chez lui.
Scène 2.
Pardon, monsieur.
Oui.
Vous connaissez un voisin qui s'appelle Pierre Samuel?
Ah oui, le petit monsieur, là?
Ouais.
Il est là. C'est Samuel.
Scène 3.
Pierre?
Oui, oui.
Bonjour.
Bonjour.
Pierre Samuel, ténor, entre en scène.
On est avec Edith, là.
Oui.
T'as de la visite.
Ah, bah bonjour, ça va?
T'as même quelqu'un qui vient t'enregistrer.
Oui.
Vous venez le balayeur là de la Malakoff?
Ah bah oui, 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 c'est... on dit que c'est l'homme le plus heureux de Malakoff. Il chante tout le temps.
Il a une belle voix, hein.
Ah oui, oui, oui.
Tu sais comment il chante, tout ce qu'il est capable de l'imiter, toi?
Bon, je peux essayer.
Un petit peu, juste pour voir.
Le long du quai, les grands vaisseaux, que la houle incline en silence. Mais l'acoustique est très bonne ici.
Bravo.
Scène 4.
Ce que je vais faire, je vais dire au balayeur de venir pour qu'il fasse
danser.
Hein? Non, pour qu'il rencontre Pierre Samuel.
Ah bah ouais, j'aimerais bien rencontrer, hein? Ouais. Parce que je le vois souvent passer, mais je ne l'ai jamais...
Prends tes clés.
Pierre Samuel faire la clé, ouais. Ferme la porte. Scène 5.
Il est encore là.
Ah bah. Vous pouvez venir, monsieur?
Monsieur Balayard.
Venez, monsieur.
Il y a un monsieur là qui chante un peu comme vous, là.
Ah bon? Bon, on va faire un duo. Vous connaissez les berceaux? On va sonner.
Pierre.
Le balayeur entre dans la maison.
Rentrez, 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 je vous en prie. Rentrez.
Mais il est où le balayeur?
Oui, je suis là, je suis rentré, hein.
Ah bon?
Ouais, ouais, ouais. Bah non, parce que le monsieur, il est allé aux toilettes.
Scène 14.
Pierre.
Ouais.
Est-ce que tu peux venir? Il y a Edith qui est là.
J'arrive, je descends.
C'est où?
Qu'est-ce qu'il y a?
On vient t'enregistrer.
Ah bon?
Bonjour.
Attends, il y a juste un balayeur qui est en train de se balader chez moi, je voudrais pas.
Est-ce que... Attends, on peut savoir tout de même?
Quoi?
Montre-moi Pierre.
On est chez Pierre Samuel.
Montre-le, du doigt. Voilà. Et le balayeur, est-ce que tu peux me le montrer?
Le balayeur.
Ah, attends.
Oui, attends.
Pierre enlève son bonnet.
C'est toi qui te déguises en balayeur? Pour faire rigoler le monde.
Ah, voilà. On a retrouvé l'esprit action discrète là. Le faux balayeur, après le vrai Pierre, après le vrai balayeur, le faux Pierre.
Vous allez voir, il y a un policier sur la place, vous le chatouillez.
Ah bon?
Ouais, c'est un acteur aussi.
Ah bon?
Ouais.
Alors,
on va voir ça. Allez, bonne journée.
Edith, je te connais depuis presque 40 ans. Cela fait un certain temps maintenant que tu ne sais plus mon nom. Plus vraiment qui je suis, mais cela n'empêche pas, quand nous nous rencontrons, de converser, de chanter, de rire. Car Edith, tu es joyeuse. Tu baignes dans la poésie. Tu deviens un poème.
Les scènes tout de même au supermarché, c'est hyper, hyper gênant. Enfin, tout
supermarché, même. Je suis gênante.
Bah, quand la dame, la pauvre caissière à la caisse te demande « Madame, vous vouliez me montrer... »
Mon sac.
Oui.
Ah oui, ça m'avait énervé.
Oui, qu'est-ce que tu fais là?
Je sais pas, j'ai vu jeter mon sac à la figure.
Gueule. Comment on en a avoir marre de cette sécurité? Tiens, prends-le mon sac! Ah, moi, je suis hyper... elle est un peu malade.
Le pauvre Jacques, qu'est-ce qu'il subit pas?
C'est pas grave, elle vous en veut pas du tout, mais c'est vrai que... On vient tous les jours et tous les jours, vous demandez votre sac.
Non, il est impressionnant, votre gros micro.
Comment tu dis votre gros micro? Tous les jours, quand j'entre à la maison, je me trompe de maison. Ouais,
Là, tu fais des sketchs, il fait des sketchs avec...
Comment tu te trompes de maison?
Je frappe au 28, on habite au 30. Mais tu me dis, t'es fou, c'est pas là la maison, elle est là. Ah bon, je sais pas. Ce matin, je t'ai dit, je crois que la maison, c'est du côté impair. Elle est à gauche de la rue quand on remonte. Non?
Non.
Elle est où?
On est à droite.
Elle est à droite de la route, mais souvent, je la retrouve pas, la maison.
On est au 30.
Oui, mais je sais. Je sais, mais j'oublie de temps en temps.
Tu fais exprès?
Oui, mais ça te distrait un peu.
On va mettre à l'épreuve.
Voilà, exactement. Quand je lui dis, Jacques, je vais mettre tes lacets, donc elle est à genoux devant moi. Moi, je suis allongé dans le fauteuil et elle fait mes lacets. Les gens disent, mais tout de même. Je lui dis, laissez-moi faire. Hein. C'est ça, c'est les soins que je lui donne. Elle est utile quand la femme est lassée.
Bon, donc tu travailles à France Culture. C'est quand même... Attention. Et toi, tu as... Oh là là, tu as participé au Théâtre de l'Unité, tu as écrit dans France Nouvelle, tu as été à la direction de plusieurs théâtres. Oh là là, j'ai tout oublié. Est-ce que tu te souviens comment c'est au Bouffes du Nord, par exemple?
Les Bouffes du Nord? Oh oui, le théâtre de Peter Brook.
Ouais.
C'était un grand bonhomme. Il est magnifique, ce théâtre.
Ouais.
C'est une splendeur. Théâtre à l'italienne.
L'espace vide. Tu l'avais vu, le Mahabharata?
Oui, je crois. Je suis incapable de te raconter la pièce. C'est irracontable.
Tu connais Ariane Mnouchkine?
Oh là là, elle est extraordinaire, je l'adore. Ariane Mnouchkine. C'est une femme merveilleuse.
Il y a une grande scène où Ariane, je sais pas, on va la rencontrer et elle a préparé, c'est que c'est l'anniversaire d'Edith, elle a préparé un énorme gâteau.
Je suis très émue par cet hommage non mérité.
Oh. Si, nous pensons qu'il est complètement mérité, Madame Rapoport. Vous avez soutenu nos théâtres. Toute votre vie.
J'ai fait ce que j'ai pu.
Et ça ne s'oublie pas.
Non, mais...
Un beau gâteau.
De l'ami Edith, c'est l'anniversaire. Elle n'est pas centenaire. Elle a juste 80 ans. Oh ma chère Edith, pour ton anniversaire, y a la fête à faire, l'affaire d'un moment. Quelle aura l'an prochain? C'est pas mon anniversaire, c'est le tien, c'est le tien. C'est pas mon anniversaire, c'est le tien jusqu'à demain. C'est pas mon anniversaire, c'est le tien, c'est le tien. C'est pas mon anniversaire, c'est le tien jusqu'à demain.
Ah ma chère Mamoun, tu as 80 ans. On est le 14 octobre. Et t'as 3 petits enfants. Facile. Ah ma chère grand-mère, la mémoire t'en a plu, mais t'as de quoi être fière de tout ce que t'as vécu.
Une enfant blonde, rieuse et triste. Elle ne sourit pas et ne pleure jamais. Mais au fond de ses yeux, quand elle vous y laisse boire, tremble un doux lys d'argent, la fleur du poète. Elle est douce et muette, sans aucun reproche, avec un long tressaillement à votre approche. Mais comme moi je lui viens de ci, de là, de fait, elle ferme les yeux, puis fait un pas. Et ferme les yeux. Créez mon amour. Et les autres femmes n'ont que des robes d'or sous de grands corps de flammes. Ma pauvre amie ici est scellée. Elle est toute nue, n'a pas de corps. Elle est trop pauvre. Elle n'est qu'une fleur candide, fluette, la fleur du poète. Un pauvre lys d'argent, tout froid, tout seul. Et déjà si fané que des larmes me viennent si je pense à son cœur.
Je vais faire un discours, Mamoun.
Debout.
Bah, je suis très contente d'avoir cette famille formidable autour de moi qui sait jouer de la musique.
qui sait amuser, qui sait distraire, qui sait me faire rire. Alors que j'ai pas toujours envie de rire, mais... Et puis Hussein et Annan, très contente qu'ils soient là.
Allez.
Il fait partie de ma famille.
Ah oui.
Donc moi je te récitais après, là-bas en Mandchourie, un ventre fressaille encore comme dans un...
Un accouchement.
Je voudrais...
N'avoir jamais fait tous mes voyages.
Ce soir, un grand amour me tourmente, je pense à la petite Jeanne de France. J'ai des amis qui m'entourent comme des garde-fous.
Ils ont peur quand je pars que je ne revienne plus.
Je voudrais n'avoir jamais fait mes voyages. On s'est connus sous ce signe-là, quoi. C'est des échanges spirituels. Mm. Ça te plaisait, toi.
Puis après, tu as été avec la famille Rapoport, c'est pas mal.
Oui.
Il y a un orchestre.
Le Rapoport Orchestra.
Quand je chante comme ça, ça me rappelle le temps où mon père vivait au-dessus et fréquentait Vysotsky, les artistes russes, Mayakovsky, Tchaïkovsky, Prokofiev et Maya, Opéra et Ballet.
Est-ce que tu sais quel âge t'as maintenant?
Ça me fait quel âge? 80.
80.
C'est même pas drôle. Quand par hasard elle parle de son âge, elle dit moi qui ai 87 ans. Alors la personne en face dit oula, viens, vous ne les faites pas, toi, etc. Et là, surtout mon repas d'ambassadeur, là, en Éthiopie, là, c'était plus dur que ça. Hein. Donc il y avait, toi, c'était conseiller d'ambassade, etc. Un grand repas. Et Edith demande à un conseiller d'ambassade, nous. On était en Éthiopie, à Addis Abeba, elle lui demande, nous sommes bien au Qatar. Et le type, il croit que ma femme a énormément d'humour. Et il dit, ouais, nous sommes au Qatar pour la Coupe du Monde. Et il dit, tourne vers moi, et il dit, alors, pourquoi tu me dis sans arrêt n'importe quoi?
Oh là là.
Le coup du Qatar, ça.
Non, moi, si je peux faire rire un peu les gens.
Toute l'Éthiopie, tu disais qu'on était au Qatar.
Jacques? Tu as eu le prix de l'hygiène mentale?
Ça, pour une question, c'est une drôle de question. Hein. Oui, j'ai eu le prix de l'hygiène mentale. En... Je ne peux pas te dire l'année. Attends, si je vais te la trouver, l'année. Hein. Vers 1982, c'était un prix que donnait le ministère de la Culture à une compagnie théâtrale qui faisait un travail social positif auprès des jeunes désolés, voilà. Je crois qu'ils ont donné ce prix qu'une année, voilà.
Quand on a une femme qui a la maladie d'Alzheimer, c'est peut-être pas mal d'avoir le prix de l'hygiène mentale.
Ah oui, c'est pas mal vu ça. C'est moi l'antidépresseur, il n'y a pas besoin de médicaments. Hein.
Je suis bien entouré.
Oui, c'est vrai que je m'occupe de l'hygiène de madame, hein, de faire en sorte qu'elle ne sombre pas. Ça m'amuse plutôt qu'autre chose.
En ce temps-là, j'étais dans mon adolescence. J'avais à peine 16 ans et je ne me souvenais déjà plus de mon enfance. J'étais à Moscou, la ville des trois gares et des 1003 tours. Et après, je me souviens plus.
Qu'est-ce qui s'est passé ensuite?
On est parti en voyage ensemble.
Où ça?
Je sais plus.
En Algérie.
Ah oui.
On voulait être...
Istra, Boussa, Ada et Louen.
On voulait être... Qu'est-ce qu'on voulait faire comme métier?
On voulait être ethnologue.
Non.
Non. On voulait être...
Instituteur.
Ah oui.
Sauver le monde. Sauver les pauvres petits Algériens à qui on avait fait la guerre. On était trois ans après la guerre, hein, seulement.
Ouais.
Et un jour, sur une colline, il faisait très chaud à Elouette le soir, hein, très très chaud. Hein. Donc il y avait un petit peu de vent et je crois que je t'ai pris la main et je lui ai dit, si on veut être nommé ensemble à Elwed, il va falloir se...
marier.
Voilà. Donc on est rentré et t'as dit ça à ta mère.
T'es pas très contente.
Ouais, d'accord.
Elle m'a dit, il est pas juif au moins. J'ai dit, si justement.
C'est vrai?
Oui.
Oui. Et ton père, quand tu me l'as présenté...
Mon père, il voulait que tu l'appelles docteur.
Oui, non, mais il s'est retourné vers ta mère, en aparté, il a dit, c'est qui ce zèbre? Moi, voilà, j'étais bien accueilli dans ta famille. Hein. Ouais, j'en ai bavé. Hein. J'en ai bavé.
Mais t'en as plus bavé après. Ouais. Si, avec moi.
Edith est rentré avec moi, non? T'es là, Edith?
Quoi?
T'es où?
Je suis là.
Où ça?
Ben regarde, tourne la tête.
Je vois rien.
Je suis là.
Ben où?
Tu veux que je crie?
Oui, t'es où? Je suis là.
Ben j'ai réussi l'examen aujourd'hui.
Et il a réussi son examen, Edith. T'entends? Hein?
Oh.
Tu vas faire un discours, Edith.
Je vais pas faire un discours.
Ben oui, mais attends, c'est même un de tes enfants qui réussit un examen.
Je lève mon verre à mes amis Hussein et Adnan, que je suis ravi d'avoir accueilli et qu'ils aient pu apprendre le français. Parce qu'ils ne parlaient pas du tout en arrivant.
Oui, mais
Adnan a réussi son examen. Hein, Adnan a réussi son examen. À la vôtre.
À la vôtre.
À la faculté. Mmh. La faculté de la Sorbonne.
Mmh. À la Sorbonne?
Oui.
Ah, dis donc.
Tu étudiais là-bas, non?
Oui. Combien ta mère avait d'enfants?
On a 5 filles, 5 garçons. Mon père et ma mère se sont fait la justice.
C'est égalité.
Égalité, quoi.
10 enfants.
Ouais.
Dis donc, il a courage.
Ouais, il est très courage. Bon.
Et vous ne revoyez jamais vos parents? Ils sont morts, peut-être?
Ouais.
Hussein et Adnan.
Ouais.
Bon, vous avez bien appris le français tous les deux.
Ouais, ça va, aujourd'hui, oh là là, c'est très bien.
Ils parlaient pas du tout.
Non, au début,
je sais pas
c'était...
comment on parlait ensemble.
Moi aussi, je sais pas. Au début, quand je suis arrivé d'ici, la première fois, je viens d'ici, et tu l'entendais ici, sur la table. Et je te demandais, oh, est-ce que je peux filmer sur la terrasse? Tu m'as dit, non, c'est la maison de liberté, tu peux filmer n'importe où. J'ai dit, oh là là, c'est le rêve, j'ai besoin de ça. Après, la deuxième fois, avec Daniel Matar. Tu le connais, ton ami Daniel Matar?
Ah oui, oui.
Oui, c'est un mec qui fait de doctorat de théâtre en Italie, je pense. Après, j'ai passé le temps, je ne parle pas français, j'ai essayé
mais maintenant,
de,
tu parles bien.
De faire des gestes, quoi. Mais ça va maintenant.
Tu parles beaucoup mieux.
Oui, c'est bien ça. Sur l'argent, tu m'as dit, les gens, les religions des gens aujourd'hui, c'est l'argent. Le dieu des gens aujourd'hui, c'est l'argent, quoi. Ils ne prennent pas la tête avec l'humanité, les choses artistiques, ils ne comprennent pas, quoi.
Je ne sais pas comment on s'est rencontrés, d'ailleurs.
C'était 2014. Tu disais, il y a un Syrien, il vient de la Syrie. C'est, il est artiste, il vient d'Alep, c'est génial.
Voilà.
Ouais. Tu te souviens d'Alep ou pas?
C'était une belle ville, mais qui a été ravagée par cette infection de Bachar el-Assad, qu'on devrait mettre en prison depuis longtemps.
Il doit.
Alors que c'est lui qui est président. Il a fait beaucoup de mal à son pays.
Wow. Il est dégagé 8 millions, il a tué presque 1 million, il a bombardé, détruit les vieilles villes à Alep. Il fait des choses catastrophes.
C'est une tellement belle ville, Alep.
Ah.
Oh, voilà. Ah. Bon, t'as des belles chaussures bien cirées.
Merci.
Un soldat rentre chez lui, a marché, a beaucoup marché. 15 jours qu'il chemine déjà, marche depuis longtemps déjà.
Ouais, ouais, on était, c'était dans le théâtre ici.
Ouais.
Ouais. On a sorti le soir et j'étais content parce que j'ai dit, on fait les chansons ensemble. J'ai dit, un soldat a beaucoup marché. Toi, tu continuais, après on reste. On passe sur Bachar al-Assad, sur Alep.
Bon, ben, ouais. Je suis bien content d'avoir servi à quelque chose.
Mais c'est pas juste quelque chose, Edith, comme on dit. Notre chemin dans la vie, vous êtes dedans.
Un soldat rentre chez lui,
a beaucoup marché.
15 jours qu'il chemine déjà.
Il n'y a pas d'étrangers sur cette terre. Pour le coller sur votre micro.
toi, t'es Adnan et l'autre, c'est Hussein.
Voilà.
Al-Hajar.
Voilà, exactement. Qui signifie Égypte.
Si je devais comprendre l'arabe, j'aurais du mal.
Ah oui, ça sera compliqué. Je suis venu chez toi depuis 3 ans.
De 3 ans?
Ouais. C'est refuge. Parce qu'il... Edith et Jacques. Il est gentil, Jacques. Hein?
Oui, très gentil.
Il aime bien Rimbaud.
Hein?
Rimbaud.
Il aime beaucoup Rimbaud, oui. Il connaît par cœur plein de poèmes de Rimbaud.
Et c'est pourquoi tu es tombée amoureuse à lui?
Ben, c'est pour ça.
Il travaille encore?
Ben oui, il travaille encore, bien sûr. Il n'arrête pas. Sauf quand il s'endort. Il a un coup de pompe. C'est normal, hein?
Il est fatigué.
Il n'arrête pas.
Il n'arrête pas de travailler.
Jacques, je t'en supplie, va travailler. Maman, je n'ai pas volonté. Jacques, donne-moi des satisfactions. Maman, je suis pas un homme d'action. Dans ce cas-là, fourre-toi au lit. Si tu crois que c'est ça la vie, monte, 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 Jacques, dans ta chambre.
C'est une chanson que Jacques a écrite quand il était petit.
1965. Cadeau d'anniversaire à ma mère.
C'est vraiment longtemps. Ouais.
Ma mère, elle était partie de Moscou, elle. Et elle s'était arrêtée en Allemagne. Parce qu'à l'époque, les Russes avaient des très bons ingénieurs qui étaient demandés dans le monde entier.
Ouais.
Donc son père était ingénieur et il avait été demandé en Allemagne. Et donc elle a été élevée à Berlin. Donc première langue maternelle russe. Mais après, à l'école, Deutsch.
Ouais.
Elle parlait trois langues.
Et ma mère, elle aimait beaucoup les Allemands.
Elle parlait russe, elle parlait allemand.
Et elle disait que les Allemands ne peuvent pas faire de cruauté. Parce que c'est un pays de culture. C'est le pays de Bach, de Beethoven, de Schiller.
Voilà.
Elle disait que les Allemands ne peuvent pas
faire des choses horribles.
Elle disait ça. Et ma mère, elle a toujours aimé les Allemands.
Et ta mère, comment il fait quand il aime beaucoup l'allemand, mais après la guerre, comment il est senti?
Ah, il avait toujours, non, il disait.
Ah oui, il est changé.
Le nazisme, c'est une maladie, il disait.
Ok.
C'est quelques Allemands quand ils sont tombés malades. Mais tu sais, elle parlait bien allemand, elle parlait un peu. Un peu
yiddish. Elle parlait russe, allemand, français.
Elle parlait 5 langues.
Anglais. Ouais. 4 langues. Parfaitement.
Maintenant, c'est vous les juifs d'aujourd'hui.
Oui.
Avec la diaspora, vous avez la famille en Allemagne.
Exactement.
En Angleterre, en France. Ouais. Ouais. Personne ne nous voit.
Il y a 8 millions, 8 millions qui partent.
Le journalisme dans le monde arabe, il n'arrivait pas de parler ni contre Israël, ni contre le gouvernement arabe. Commencez à taper les Syriens. Ouais. Les Syriens ont migrants. On nous dit, vous êtes des Israéliens.
On est vraiment des juifs maintenant.
Ouais, c'est... Et quand on dit voilà.
En Europe, on est musulmans. En pays arabe, on est sioniste.
Oui, c'est on a.
Partout, on est étranger. Jacques, en tant que fils de juif, tu as un conseil pour les nouvelles juifs, les Syriens?
Ah, pour les nouveaux juifs.
Voilà, un conseil.
Un conseil, ouais. La culture, lire.
Ah oui.
Ok.
To read. Ashkenaz, et ben leur force c'est la culture.
Ouais.
Ils lisent plein de livres, ils réfléchissent, ils sont philosophes, ils sont scientifiques, ils développent l'intelligence sans arrêt, ils cultivent.
Bravo.
Bon, à nous il faut qu'on aille. On a une heure, Edith.
Ouais.
Allez, il faut aller se coucher.
Oui, il faut aller se coucher.
C'est une histoire qui n'est pas finie.
Oh. Quand tu dis c'est une histoire qui n'est pas finie, c'est une histoire qui est pas loin de se terminer tout de même.
Bah oui, forcément.
Et comment ça va se terminer?
On va mourir l'un et l'autre.
Oui, comment on va faire?
J'espère que je mourrai avant toi.
Oui, d'accord. Comment tu vas faire?
J'en sais rien. Je vais pas me suicider. J'ai déjà une sœur aînée qui s'est suicidée.
Ah, d'accord. Non, il y a un vétérinaire qui m'a proposé un produit très rapide qui donne aux chevaux.
Un vétérinaire?
Ouais, pour les anesthésier et les faire mourir. Ça t'intéresserait, ça?
Non.
Mais il paraît que c'est formidable. Hein. On prend chacun une petite dose et puis voilà, c'est tout. Voilà, ça te dit rien, ça?
On a quand même des enfants. Faut pas les abandonner.
Ils s'en foutent, non?
Ils s'en foutent? Non, ils s'en foutent pas.
Ils ont plus besoin de nous, alors j'ai 50 ans. Ils ont plus besoin de nous.
Non, mais ça va pas leur remonter le moral.
Non, d'accord. Donc on va laisser faire la nature. D'accord, voilà.
Bon.
De toute façon, toutes les... Oh, c'est quoi ça?
Radio France.
Non, ça.
C'est un micro.
Ah oui, c'est bizarre, hein.
Il nous enregistre. Toutes les bêtises qu'on est en train de dire.
C'est ce qu'on a vu hier soir au cinéma?
Je me souviens pas.
Hier soir. Et ça s'avait beaucoup plus glas, bien.
L'aviateur. Et alors?
Ça t'a plu?
Oui, ça m'a plu.
Pourquoi?
Parce qu'il se battait.
Voilà.
Il se battait bien. Ça me faisait peur.
Ben oui, moi aussi j'avais peur, oui, t'as raison. On avait peur. Tu sais ce qu'on a vu hier soir au cinéma?
Gladiateur.
Ben oui, voilà. Exactement, tu t'en souviens bien.
Pourquoi il me...
Hein?
Pourquoi tu me poses des questions?
Pour savoir. Par exemple, tu sais ce qu'on a vu hier soir au cinéma?
Mais on répète pas trois fois la même question. Gladiateur.
J'ai répété trois fois la même question.
Oui.
C'est moi qui m'en souviens pas. Alors là, il y a inversion des pathologies. J'ai répété trois fois?
Ben oui, c'est la trois fois que tu me poses la même question.
Bizarre. Et moi, je m'en souviens pas. Tu sais ce qu'on a vu hier soir?
Il me pose pas la quatrième fois la même question.
Je l'ai déjà posé?
Gladiateur.
T'es sûr que je t'ai posé la question?
Quatrième fois.
Faut que j'aille voir. Faut que j'aille consulter, alors. Faut que j'aille voir le professeur Taillet qui me dise ce qui se passe. C'est bizarre, je t'ai déjà posé la question.
Professeur Taillet.
Bon, quand on va au Parentèle, qui est un EHPAD à Paris pour les personnes riches, hein, où il n'y a que des anciens patrons du CAC 40 ou des anciens ministres, et que tu les vois, c'est autre chose qui est dite. Hein. Il y en a un qui fait 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, toute la journée, et l'autre de l'autre côté, allez. Ils hurlent tous, c'est terrifiant, c'est une cour des miracles. Là, je suis allé voir les infirmières, je leur ai dit, quel courage. Elles sont d'une patience incroyable. Quoi, voilà. Il n'y a pas de comparaison entre un Alzheimer profond, notre ami qu'on va voir, là, au Parentèle.
Qui?
Jean.
Ah, Jean Digne, oh là là, quelle catastrophe. Et un homme si beau, si intelligent, avec son Provence. Qui dirigeait le relais culturel d'Aix-en-Provence.
D'accord. Mais quand tu te retrouves dans ce magasin, dans cet EHPAD, t'es vraiment bien portante, toi, t'as rien. Tu pourrais même travailler là-bas facilement. Hein. Quoi?
Ben dis donc.
In every life we have some trouble. When you worry, you make it double. Don't worry. Be happy.
Il va danser.
Ooh, 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 ooh. Don't worry. Whoa, ooh, ooh. Be happy. Whoa, ooh, ooh. Don't worry, be happy. Whoa, don't worry. Whoa.
Qu'est-ce qu'il fait, Jacques Olaricot? Quand il était jeune, on l'appelait Jacques Olaricot. Il était tout mince. Il a bien changé.
J'en ai fait plein des poèmes. Hein?
Oui.
Je t'ai fait tes yeux, sont si profonds.
Dans mon penchant pour boire, j'ai vu tous les soleils y venir se mirer.
Si je tiens à mourir,
tous les désespérés.
Tes yeux sont si
profonds
que j'y perds la
mémoire.
Que j'y perds la mémoire, t'as vu? Marrant, hein, que j'y perds la mémoire. Louis, le poète s'appelle Louis
Aragon.
Aragon. Bravo.
Pioche, vache, étoile, Edith et Jacques. Une expérience tentée par Sylvie Gasteau, réalisée avec
Anne Fleury.
Enregistré par
Christian Lahondès
et
Laurent Maghietti.
Mixage
Nicolas Depagraf.
Avec
Edith Rapoport.
Jacques Rapoport dit Lifshin.
Christophe Rapoport.
Pierre Samuel, balayeur lyrique.
Hossein Al-Gajar
et Adnan Al-Gajar.
Musique improvisée et interprétée par
Kolia Chabanier
et du Rapoport Orchestra
Dana Rapoport, Gabriel Chabanier, Gaïa Chabanier, Vincent Rapoport.
L'expérience Aurélie Charon, Inès Dupéron.
C'est bon ces petits bidis. Pas que c'est mauvais, hein. Marqué fumé tu. Hein. Il est mort de quelque chose. Dîner chez Christophe. Il est vraiment gentil. Hein. Une famille, mon emploi du temps. Emploi du temps, c'est important. Fais ton jogging, ça te détend. J'ai un fils qui est assez sympa quand même. Il m'a mis mon emploi du temps. Il m'invite encore à dîner. Piscine. On n'est pas allé à la piscine, j'ai pas l'impression.
Non.
J'ai préféré voir Sylvie Gasteau.
Alors là, tu vois, tu viens de dire mon nom, alors qu'il est écrit nulle part.
Je m'en souvenais pas.
Mais tu viens de le dire.
Ouais, Sylvie Gasteau.
Ah ouais, c'est moi.
Dîner chez Christophe. Il est gentil avec moi. Hein. J'ai de la chance de l'avoir à côté de moi. Ça m'a fait plaisir de te voir.
Moi aussi. Je reviendrai, Edith, je suis pas loin.